Oui, bonjour Alain, donc j'habite en Saône-et-Loire. Juste suite à l'émission qu'on vient d'entendre aujourd'hui sur les mines, la première chose que vous faites après l'émission, c'est de passer des publicités sur les télévisions 4K, etc. Donc, c'est pas très judicieux, disons. Voilà, c'est tout. C'est pas une grosse critique, mais bon, si on pouvait faire mieux, ce serait pas mal. Allez, merci. Au revoir.
Bonjour, c'est Gilles de Léognan, en plein vignoble des Graves de Pessac-Léognan. Je vous appelle à propos de l'émission sur le vin et le réchauffement climatique. Ici, le réchauffement climatique se traduit par un usage intensif de pesticides dans les périodes de pluie au printemps et l'utilisation de fumée de paille et d'autres produits encore plus dangereux pour notre santé. Dans le meilleur des cas, les châteaux acceptent de signer des chartes rappelant des distances d'épandage ridiculement petites, plusieurs mois par an. Les Girondins vivent donc au contact de produits toxiques et dans les fumées. L'enjeu n'est pas de savoir comment les richissimes châteaux voisins doivent adapter leur cépage, mais quand les intérêts de santé publique seront-ils prioritaires sur les profits des producteurs de Pessac-Léognan? Merci pour votre émission, à bientôt.
Bonjour, c'est Daniel. À propos du loup, j'ai toujours entendu dire que le loup ne chassait que ce dont il avait besoin. Donc, lorsqu'on parle de plusieurs moutons blessés ou égorgés et laissés non mangés ou à peine touchés, est-ce qu'on ne se trompe pas de prédateurs? Merci, au revoir.
Oui, bonjour, Emmanuel, des Hautes-Cambrailles, au nord du Puy-de-Dôme en Auvergne. J'entends régulièrement parler de la baisse de la biodiversité, ce que je ne remets absolument pas en cause. Mais je voulais vous faire partager un peu de mon quotidien. J'ai des chênes, maison charbonnière, huppe faciée, grande aigrette, héron cendré, moine friquet, pigeon ramier, milan royal, mésange bleu, mésange nonnette, chouette effraie, dame blanche, pie bavarde, merle noire, corneille noire, rouge-gorge, rouge-queue, troglodyte mignon, pinson des bois et pervier d'Europe, berge noronnette grise, grèbe huppée, chardonneret, colvert, hirondelle, faisan et la poule faisane, étourneau, faucon cresserelle, pie et pêche, buse battue. Tout ça observé sur un an entre 200 et 800 mètres autour de la maison. Alors, on ne déprime pas trop. Là, c'est la huppe faciée qui dit « Longue vie à la terre au carré ». À bientôt.
Merci Emmanuel d'avoir ouvert vos fenêtres pour la Terre au Carré. J'aimerais répondre également au premier auditeur de ce répondeur au sujet de la publicité pour lui dire que nous-mêmes ici dans cette émission, on se désole très souvent des pubs qui sont diffusées avant ou après l'émission, que malheureusement on n'a pas la main dessus et c'est pas le faute d'en parler avec la régie publicitaire. En tout cas, merci de vos messages, merci de nous faire entendre la nature près de chez vous. Continuez à nous envoyer vos messages sur ce répondeur 01 56 40 45 45, c'est le rendez-vous de la communauté de la Terre au Carré et on attend bien sur vos messages pendant tout le week-end pour diffusion dès lundi après-midi. Dans ce club du vendredi, nous ferons une escale à Grenoble qui devient cette année la capitale verte de l'Europe. On verra ce qui se cache derrière ce label. Nous suivrons une marche entre l'Auvergne et la Provence avec une autrice qui s'est mise entre autres dans les pas de l'auteur Robert Louis Stevenson. Et puis nous pénétrons dans la forêt jurassienne pour une rencontre privilégiée avec un félin qui ne se laisse pas facilement approcher, le lynx boréal. Pour parler de tous ces sujets, nous sommes en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble avec Guillaume Thierriot, le directeur de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. Je reprends mon souffle, et Magali Talandier, professeure en urbanisme et aménagement du territoire. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis en studio à Paris, on accueille la journaliste et autrice Gwenaëlle Aboulivier et le photographe et réalisateur Laurent Gelin. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous, vous allez répondre aux messages des auditeurs et auditrices qui nous rejoignent bien sûr sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux, l'appli France Inter avec les notes vocales et comme tous les vendredis, le journal des bonnes nouvelles tant attendues. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On parlera de quoi aujourd'hui?
Télescope spatial au top, phoque miraculé, porte de l'enfer bientôt fermée, écho hameau et pluie de poissons, oui.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Anna Massardier et Emma Bouvier, avec à la technique Anne-Laure Cochet.
Mathieu Vidard.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Guillaume Thieriot, Grenoble devient donc officiellement ce week-end la capitale verte de l'Europe. On commence un premier tour de table avec vous. Ce titre vous a été décerné donc par la Commission européenne. Ça commence donc ce week-end officiellement. Un an de festivités. Pas trop contrarié par la non-venue d'Emmanuel Macron pour l'inauguration demain ?
Je crois que c'est pas le sujet principal, si vous me permettez, par rapport à cette année Capitale Verte. Ce titre, en effet, qui a été attribué à la ville de Grenoble. Et à partir de ce titre qui a été attribué, c'est un grand projet qui commence et une grande dynamique sur tout le territoire, puisqu'on a un partenariat avec aussi la métropole Grenoble-Alpes, avec le département de l'Isère, avec le soutien de l'État, président ou pas président. Et donc l'année, de toute façon, elle commence et c'est ça qui est important.
Bon, c'est pas le sujet, mais c'était quand même ma question. En tout cas, le maire Éric Piolle de Grenoble était visiblement très contrarié. Lui, il l'a dit, hein.
Écoutez, moi je m'occupe de l'agence qui travaille pour toutes ces collectivités et pour l'animation de ce
il
de
botte cette année. En touche.
C'est ça qui est important.
Magali Talandier, on verra avec vous ce que représente ce label et puis bien sûr le rôle du comité scientifique puisque vous êtes également avec nous depuis Grenoble. Gwenaëlle Abolivier, vous revenez dans les librairies avec ce livre Marche en plein ciel, publié aux éditions Le Mot et le Reste. C'est l'histoire d'une marche dans les grands pâturages du centre de la France, une marche pour vous laver, écrivez-vous. Pour vous laver de quoi exactement?
Écoutez, c'est un récit et c'est une entreprise que j'ai donc menée après le confinement. Donc il y avait vraiment cette nécessité d'ouvrir les fenêtres et les portes, de partir avec son sac, ouais. De s'aérer, de retrouver cette tradition des grandes marches. Hein. Il y a eu plein d'auteurs avant moi qui sont partis. De renouer aussi avec ces collectifs de ces jeunes qui marchent pour la démocratie, pour le climat. Donc c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans mon sac et dans mes mots en fait. Hein. C'est aussi ce travail sur l'écriture hein, qui me tient à cœur, que je mène maintenant depuis quelques années, dans le grand vent, face au grand large, mais aussi justement à travers ces grands pâturages.
Introspection et dédoublement, hein, on en parlera pour cette plongée avec vous donc dans la deuxième partie. Et puis enfin, Laurent Gélin, vous êtes l'auteur de Lynx, un film animalier qui sortira mercredi sur les écrans. Vous nous emmenez au cœur du massif jurassien, c'est là que vous habitez, donc ça tombe bien, à la rencontre de ces félins que vous avez retrouvés et filmés. C'est long de filmer des félins comme ça, et c'est une vraie partie de cache-cache. C'est combien d'années pour arriver à faire un film d'une heure et demie ?
Alors, ça, j'ai commencé à travailler il y a 12 ans sur le lynx, en commençant par faire des photos. J'ai fait un premier bouquin et ça a duré 5 ans déjà pour le livre. Et puis, 7 petites années pour réaliser le film, pour pouvoir cumuler suffisamment d'images de l'animal qui n'avait jamais été filmé dans son milieu naturel et pour raconter une histoire.
Et la promesse est là puisqu'on le voit vraiment de bout en bout dans votre film et ça c'est déjà une prouesse en soi. Hein.
C'est une prouesse et puis il y a plein d'anecdotes. Ouais,
On en reparlera avec vous tout à l'heure, vous êtes l'invité de ce Club de la Terre au Carré et vous répondez toutes et tous aux messages des auditeurs.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Frotter, mieux vaut ne pas si frotter, frotter.
frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Santé, c'était la voix de Stromae sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Capitale verte européenne 2022, cela fait maintenant plusieurs années que la ville de Grenoble visait cet objectif. Sur les 18 candidatures, le jury de la Commission européenne avait choisi 4 finalistes au printemps 2020, Turin, Tallinn, Dijon et Grenoble. Chaque année depuis 2008, elle décerne ce prix à des villes engageant des mesures dites exemplaires en matière d'environnement et de développement durable. Avec ce titre, la capitale des Alpes a également reçu 350 000 euros pour mettre en œuvre ses projets.
Extrait de Télé Grenoble. Voilà la ville qui devient donc officiellement ce week-end la capitale verte de l'Europe. C'est le premier sujet de notre club cet après-midi avec vous, Guillaume Thierriot, directeur de l'agence Grenoble Capitale Ville Verte 2022. Et à vos côtés, Magali Talandier dans les studios de France Bleu Isère. Vous êtes professeur en urbanisme et aménagement du territoire à l'université, hein, Grenoble-Alpes. Et vous êtes la présidente donc du conseil scientifique Capitale Verte et Transition. Guillaume Thierriot, ce prix Capitale Verte européenne, ça récompense quoi exactement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça récompense toutes les actions qui ont été menées par la ville de Grenoble depuis un certain nombre d'années, donc qui ont été jugées comme exemplaires en matière de transition écologique. Ça va de toutes les mesures qui ont été prises sur la qualité de l'air, sur les déchets, sur les mobilités, jusqu'à des questions qui relèvent de la gouvernance démocratique de la ville.
Donc ça veut dire que pour les gens qui ne sont pas habitants de Grenoble, l'idée c'est quoi? C'est que Grenoble devienne une sorte d'exemple pour les autres villes? Parce que bon, là il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas à Grenoble, qui peuvent se dire « je m'en fiche que Grenoble soit capitale verte européenne ».
Oui, l'idée de la Commission européenne avec ce titre de capitale verte européenne qui existe depuis 2010, Grenoble est la deuxième ville française après Nantes en 2013 à recevoir ce titre, à recevoir cette marque de reconnaissance à l'échelle européenne. Le but, c'est effectivement que ces territoires, que ces villes inspirent d'autres villes, inspirent d'autres territoires, mais il y a aussi des objectifs pour la ville elle-même et pour le territoire autour de Grenoble.
Qu'est-ce qu'il faut retenir comme critère, alors, pour réunir en tout cas comme critère pour avoir ce label, alors?
Il faut, les villes qui sont candidates sont analysées, sont passées au crible littéralement sur 12 critères qui sont les critères habituels dont on parle en matière de transition écologique, qui concernent les mobilités, les déchets, la qualité de l'air, etc. Et Grenoble a réussi à avoir ce titre dès sa première tentative, ce qui est relativement rare. Peu de villes ont réussi, à part la première, à avoir ce titre dès la première tentative et en ayant de très bons résultats puisqu'elle était première ou deuxième sur 10 des 12 critères qui étaient retenus.
Oui. Magali Talandier, il y a donc ce comité scientifique. À quoi ça va servir exactement? Qu'est-ce qui justifie finalement son existence là au sein de cette année?
Alors le conseil scientifique donc, que je préside a été créé en amont. En réalité, de capitale verte, il existe depuis plus de 2 ans. Donc, au moment de sa création, on ne savait pas encore qu'on serait, que la ville serait donc lauréate de ce concours quelque part européen. Mmh. Donc, les missions qui ont été celles du conseil scientifique dès le départ, c'est de constituer finalement un groupe de chercheurs et de chercheuses qui éclairent par leurs connaissances, par leurs travaux, l'action territoriale, donc au niveau de la région grenobloise, que ce soit dans son plan climat, air, énergie, ou du coup, là, aujourd'hui, en effet, en 2022, sur les missions dédiées à capitale verte européenne.
Guillaume Thierriot, justement, est-ce que tous les efforts dont vous nous avez parlé, donc qui ont été récompensés, finalement, ça se traduit aussi concrètement par des baisses d'émissions de gaz à effet de serre dans la ville de Grenoble?
On va pas se mentir, Grenoble est toujours une ville qui souffre de pollution. Il y a des reportages régulièrement sur le sujet, oui. Mais des efforts ont été faits, des efforts conséquents avec des résultats et des diminutions des gaz à effet de serre, des particules fines dans l'atmosphère à Grenoble.
C'est-à-dire, oui, qu'on n'y est pas encore malgré tous ces efforts?
On n'y est pas, et c'est à ça que va pouvoir servir peut-être une année comme l'année Capitale Verte Européenne. C'est justement, c'est un de ses objectifs, c'est non seulement d'inspirer au-delà du territoire de Grenoble, de montrer ce qui est fait ici, mais c'est aussi d'accélérer cette transition écologique sur le territoire, c'est d'aller encore plus loin dans ce mouvement.
Mais alors par rapport à la pollution dont vous parliez, la pollution de l'air à Grenoble, j'ai une question, vous disiez que c'est dans les critères d'attribution. Grenoble fait partie des villes les plus polluées en France, comment c'est possible qu'elle...
Qu'elle obtienne ce label
alors qu'en pollution de l'air, c'est en gros dans le trio de tête des pires.
Ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la situation de départ. Je pense que c'est ça qui est surtout qui est apprécié par la Commission européenne. Il y a une donnée géographique à Grenoble qui est sa situation de cuvette, comme vous le savez, avec ces trois massifs qui entourent la ville. Donc il y a une donnée de départ qui est compliquée, mais surtout il y a un chemin qui a été pris, qui a été entrepris avec l'action des collectivités publiques, des collectivités territoriales, mais aussi des citoyens qui... sont très nombreux à être passés, par exemple, au vélo, à avoir laissé la voiture individuelle. Donc, il y a des efforts qui sont faits collectivement, individuellement. Il y a des résultats qui commencent à être obtenus. Et c'est ce chemin qui a été apprécié par la Commission européenne. C'est pas cette situation de départ dont la ville souffre forcément.
Alors justement, la place du vélo, hein, depuis son arrivée à la mairie de Grenoble en 2014, le maire écologiste Éric Piolle a transformé la ville avec des pistes cyclables, par exemple, qui placent Grenoble en tête des villes cyclables entre 100 000 et 200 000 habitants. Une politique qui divise visiblement ses habitants. Écoutons ce reportage de TF1 en 2020.
Excellent pour les cyclistes. Il y a plus de pistes, on est plus à l'aise, on est plus en sécurité.
Beaucoup plus de voies piétonnes, etc. Pour les gens qui habitent en ville, c'est super.
Mais ces changements font aussi des mécontents. La transformation du cœur de ville engendre des kilomètres de bouchons soir et matin. Et dans la ville, il y a peu de places de parking. Dans ces conditions, il est bien souvent trop compliqué pour les habitants de la périphérie de venir faire leurs courses dans le centre. Et sans cette clientèle, beaucoup de commerces ne survivent pas. Comme nous l'explique ce membre d'une association de riverains.
Et là, c'est déjà fermé. Ça n'a pas tenu. C'était un commerce de produits locaux. Ensuite, il y a ceux qui sont ouverts avec des gens qui ne gagnent plus leur vie dedans et qui vont fermer demain, oui.
Même à moitié prix, ce commerçant ne trouve pas d'acheteur pour un local pourtant idéalement situé en plein centre de Grenoble.
L'écologie va avec l'économie et l'économie va avec l'écologie. L'un sans l'autre, ça ne marchera jamais. Donc à partir du moment où moi, en tant que citoyen, j'entends mon maire dire que Grenoble est un laboratoire, moi, je suis pas un rat, quoi.
Voilà, à Grenoble, avec Nicolas Coville, qui est commerçant sur place. Guillaume Thiriot, on voit quand même que c'est un long parcours pour essayer de faire adhérer l'ensemble des habitants, même si les projets écologistes sont louables, mais ça divise quand même énormément.
Bien sûr que ça divise, c'est normal. On parle de transformation du monde, on parle de transformation d'habitudes, de consommation, de production. C'est toutes les règles de notre vivre ensemble qui sont en train d'évoluer, qui sont de changer. Et forcément, ça déstabilise. Forcément, il faut un temps pour cette transition. Mais encore une fois, on est sur une année qui commence. Et cette année va être l'occasion, justement, d'engager beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, de les partager avec le plus grand nombre possible d'habitants, d'acteurs économiques, associatifs, parce que c'est l'esprit de cette année justement, c'est pas d'avoir une programmation toute faite qui est imposée à tout le monde, c'est de susciter la rencontre, le débat, les échanges autour de ces sujets.
Voir les controverses, Magali Talandier, hein, c'est ce que vous avez proposé par exemple autour de la science, il y aura des animations avec le public pour aussi montrer que précisément la science, c'est un sujet de débat et de controverse.
Tout à fait. Ce qui a vraiment animé le conseil scientifique, donc qui regroupe 35 chercheurs et chercheuses sur des disciplines très différentes, c'est-à-dire qu'on est aussi un groupe finalement constitué de climatologues, d'hydrologues, mais aussi d'historiens, de géographes, de sociologues, de façon aussi à appréhender la complexité, je dirais, de ces enjeux de transition environnementale, comme le montrait très bien votre reportage. Donc oui, ce que l'on propose sur chaque thématique, puisque chaque mois il y aura un thème différent, donc sur chacune de ces thématiques, des chercheurs spécialistes, là par exemple pour le mois de janvier, de la question du climat, pour le mois de février, de la question de l'air, etc. Donc chaque mois, ces scientifiques proposent à la fois un partage de leurs connaissances, donc vraiment essayer sur des formats très variés de discussion, donc conférences, mais aussi pièces de théâtre, etc., de partager leurs connaissances et d'animer, vous avez raison, des controverses et des débats, parce que sur tous ces sujets, on l'a entendu, ce n'est pas toujours facile non plus de s'approprier la situation du monde et ses urgences.
C'est le cas de cette conférence donc pour le lancement de cette année avec un réchauffement climatique en montagne. Ce sera ce soir à 18h30. On pourra suivre ça d'ailleurs sur le site Green Grenoble 2022, j'imagine.
C'est ça, sur le site greengrenoble2022.eu, sur lequel vous avez toutes les informations sur cette année et sa programmation.
Camille.
Un petit message de Michel Guillaume Thierrot qui nous écrit qu'il a une voiture électrique, il est allé à Grenoble, il a fait 160 km en espérant y trouver facilement une borne de charge. Il nous dit bien non, quelques bornes pas assez puissantes, ci et là c'est tout, énorme déception, mais j'ai été ébloui, nous dit-il, par le tram, les voies cyclables, tous les vélos, les trottinettes, mais quelle déception donc pour ma voiture, c'est incompréhensible. Que pouvez-vous répondre à Michel ?
Je pense qu'il faut l'adresser vers la ville de Grenoble, vers la mairie de Grenoble, pour avoir une réponse à sa question. Mais voilà, enfin, c'est pas le
sujet, mais c'est des questions d'auditeurs.
Je suis content qu'il ait été émerveillé par ce qu'il a vu quand il est arrivé à Grenoble, par les trams, par les voies cyclables, sans doute aussi par le fait qu'il y a peu de publicité, que la ville est agréable aussi visuellement, que la ville est agréable d'un point de vue sonore. Tout ça, ça fait partie de ces évolutions qui sont importantes, qui ont lieu sur ce territoire. Et le chemin continue, c'est un long chemin, ouais. Hein, c'est ce que vous dites. Et cette année, encore une fois, c'est une année pour essayer d'accélérer ce chemin.
Et les critiques sont intéressantes pour faire aussi avancer les choses. Absolument. Dans le bon sens. Laurent Gélin, vous avez travaillé pour Grenoble. Vous me disiez que vous aviez mis au point des corridors écologiques, c'est ça?
Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais par contre, effectivement, j'ai travaillé sur un projet sur les animaux en ville d'Europe, et j'ai travaillé évidemment un petit peu plus en France, donc j'avais fait Paris, Strasbourg, et donc Grenoble, où, en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle.
Mais c'était quoi l'idée, alors?
L'idée, c'était vraiment de mettre en valeur toute la biodiversité qu'il y avait dans la ville. Et effectivement, j'avais eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à travailler sur toute la faune qui se passait, s'animait joyeusement dans la ville de Grenoble.
Guillaume Thiriot, pour terminer, évidemment, le lancement en grande pompe n'aura pas lieu à cause du Covid, hein. Donc les festivités, elles vont être un petit peu réduites, mais ça commence quand même aujourd'hui sur le site, donc effectivement. Et puis il y aura un escape game, hein, je crois, qui sera organisé demain, samedi.
Il y a un escape game qui est organisé demain avec deux parcours très ludiques justement dans la ville, à la fois pour la découvrir et travailler sur les différents thèmes de l'année, sur ces thèmes de la transition écologique. Et surtout, il y a un appel à participation qui est ouvert, qui est un appel à participation permanent. Toutes les citoyennes, les citoyens, les acteurs économiques, les entreprises, les associations, les groupes culturels, sportifs peuvent s'inscrire pour participer, pour relever des défis, pour organiser des événements, des actions pédagogiques, des moments artistiques, pour nourrir ainsi la programmation. Il y a ces défis auxquels chacun peut participer, et même Emmanuel Macron, s'il veut, à défaut de venir demain, il peut s'inscrire pour relever un défi et montrer son engagement pour la transition écologique. Mais surtout, tout le monde est invité à participer à cette année.
Et bien, vous le transmettrez.
Il y a cet appel à participation permanent ouvert qui est sur notre site internet.
Vous le transmettrez à Barbara Pompili, qui sera là, elle, présente pour le lancement de Grenoble, capitale verte européenne, et le site officiel greengrenoble2022.eu. C'est en lien, évidemment, sur la Terre au Carré. Merci beaucoup à vous et Magali Talandier. Merci aux équipes de France Bleu Isère.
France Inter. La Terre au Carré.
Et c'est l'heure de Camille Passauvert, version vendredi, bien sûr, avec les bonnes nouvelles et les curiosités de la planète.
La planète est au-delà.
Décollage. Décollage, lift-off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
Le décollage de James Webb de Kourou, c'était le 25 décembre dernier, direction donc les confins de l'univers, 1,5 million de kilomètres de nous, pour explorer le cosmos et observer les premières galaxies. On y avait consacré une émission. Eh bien, le lancement du télescope géant de 6,50 m, puis le déploiement de ses écrans de protection et miroirs dans l'espace, se sont ultra bien passé, encore mieux que ce que les scientifiques attendaient, comme l'astrophysicien CNRS de l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Olivier Bernier.
C'est un très grand soulagement, on respire. La fusée Ariane 5 a permis vraiment de le positionner et de l'envoyer avec la vitesse parfaite, ce qui a permis d'économiser du carburant à bord du satellite. Et donc, pour cette raison, la mission va pouvoir durer plus longtemps que prévu, plutôt 10 à 20 ans. Et puis, le déploiement, lui, c'est pareil, donc c'est passé vraiment parfaitement. Il y a eu tout un tas d'étapes, sans le moindre souci. Et donc là, maintenant, on va pouvoir passer dans une phase qui concerne l'alignement des miroirs, c'est-à-dire qu'on va bien régler tous les miroirs du télescope, et puis qu'on règle les instruments, on les calibre pour pouvoir commencer à les utiliser à peu près au mois de juin ou juillet.
Et tant qu'on est tout là-haut, trois autres petites infos de cette semaine. Ouais. Le système solaire au centre d'une bulle de vide géante, une bulle géante 1000 années-lumière. Plus de 70 planètes vagabondes errantes identifiées, hein, en dehors du système solaire, je le précise. Et une nouvelle exoplanète découverte, elle est en forme de ballon de rugby. Alors nous sommes maintenant aux portes de l'enfer. C'est un immense cratère au Turkménistan qui brûle en continu depuis 1971, quand des scientifiques ont percé par erreur une poche souterraine de gaz et pensé assécher le gisement en y mettant le feu. Raté, hein, le président turkmène veut tenter à nouveau d'éteindre ces portes de l'enfer, notamment parce que c'est mauvais pour l'environnement, je le cite. Les autorités ont ordre de trouver une solution. Bon courage. Pendant ce temps-là, sous l'eau cette fois. Alors oui, ce sont des cris de joie en mode glouglou. Cette plongeuse et biologiste marine s'extasie à la vue d'une pieuvre à couverture près de la grande barrière de corail en Australie. C'est un animal rarissime que moins de 5 personnes ont vu en vrai. La vidéo de cette magnifique pieuvre est à voir sur le site du Guardian, le journal anglais. Ici sur la plage, et puis on va vous mettre aussi sur franceinter.fr. Hein. Ici sur la plage d'Osgore, lundi soir, un phoque pris dans un filet de pêche que des sauveteurs cherchaient depuis plusieurs jours a finalement été retrouvé et sauvé. Je suis tombée sur l'interview à nos amis de France Bleu Gascogne du président de l'association de défense des milieux aquatiques, Philippe Garcia, tellement ému qu'il fallait que je vous fasse écouter, ça prend aux tripes.
On l'a immobilisé en douceur. Malheureusement, évidemment, la spire de filet qu'il avait autour du cou, il ne pouvait plus l'enlever. Il aurait fallu une main quoi, pour le faire. Hein. Ça, il ne pouvait plus le faire. Et donc, à chaque contorsion, le fil est en train de scier un peu plus. Et donc, ce fil, on l'a immédiatement coupé. Et dès qu'on l'a coupé, là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Cet animal qui était un peu tendu, on a senti que, ouf, il se soulageait d'un coup. J'ai un peu d'émotion parce que... Et donc, on a coupé ce fil. Cet animal s'est calmé. On y a mis une bâche dessus pour qu'il se réchauffe. Et voilà. Et c'était affreux parce qu'il était entaillé de plusieurs centimètres dans les chairs.
Et le phoque est désormais soigné à l'aquarium de Biarritz avec de bonnes chances de s'en sortir. Qui veut habiter un hameau léger? Est-ce que vous connaissez le concept?
Pas trop, non, en fait.
Hameau léger? Non, Angéline Brou, présidente de l'association Hameau léger, vous explique.
Alors, un hameau léger, c'est un éco-hameau qui est composé d'habitats légers. La yurte, c'est vraiment l'habitat léger le plus commun aujourd'hui en France. Mais ça peut être des maisons en terre paille à ossature bois qui sont un peu plus grandes, qui peuvent accueillir plus de personnes. Et puis, on peut avoir une salle commune, une chambre d'amis pour accueillir les personnes qui viennent rencontrer ce groupe d'habitants. L'idée, c'est d'avoir une autre manière d'habiter, un autre rapport à la terre et puis de voir qu'on peut avoir un impact minime sur le sol.
Le tout sur un terrain que chaque foyer loue à la commune dans les 50 euros par mois. Sept projets sont en cours, en particulier dans l'Ouest, et les candidatures sont ouvertes en ce moment là du côté de Plessé en Loire-Atlantique. Ce sont de vrais appels à projets. Il faut présenter tout un concept avec déjà les habitats, une diversité des foyers et des générations, c'est très important, des valeurs communes d'engagement et de minimalisme et des activités aussi pour participer au dynamisme du territoire. Je vous en parlerai un petit peu d'autopromo, mais plus en longueur lundi matin à 5h25. Enfin, il a plu au Texas, mais pas que de l'eau.
A fish hit the ground. I said, it's raining fish.
Il a plu, oui, des poissons.
We've got fish everywhere.
There's tons of them in my yard and in my driveway.
Voilà les témoignages des habitants avec des poissons morts partout sur le sol. C'est incroyable, mais ce n'est pas surnaturel. Hein. En fait, il arrive que les poissons ou les grenouilles soient aspirés par des tornades et puis après, ils retombent avec la pluie.
Voilà, c'était le journal du vendredi de Camille Cronier que vous pouvez bien sûr écouter sur franceinter.fr. Si vous êtes un fidèle auditeur de France Inter, vous connaissez son nom. Elle s'appelle Gwenaëlle Abolivier. Elle a travaillé pendant très longtemps comme reporter pour Claude Villers. Elle est désormais autrice d'un livre qui sort, Marche en plein ciel. Elle vient nous en parler dans un instant, juste après Adèle.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim. Me.
Un peu de sucre dans votre café, c'était Easy on Me, la voix d'Adèle.
France Inter, la Terre au carré.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non, 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 si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein? Oui.
Voilà, extrait des randonneurs de Philippe Harel en 1996 avec la voix de Benoît Poulvord. C'est un autre esprit de la marche, hein, Gwenaëlle Abolivier, que vous proposez dans ce livre Marche en plein ciel aux éditions Le Mot et le Reste. Après votre voyage sur Ouessant, qui avait obtenu d'ailleurs ce prix Marine Bravo Zulu en 2020, eh bien, vous revenez avec ce récit qui reprend d'ailleurs un peu les mêmes codes d'écriture finalement. Je parlais d'introspection tout à l'heure, mais c'est ce qu'on retrouvait également dans Tu m'avais dit Ouessant avec une expérience intérieure sur un territoire particulier. Et donc là, c'est l'idée de traverser finalement les grands pâturages du centre de la France pour quoi finalement? Pour fuir le confinement?
Oui, un peu ça, c'est vrai, pour se mettre en situation d'écriture, parce que c'est vraiment ma priorité, de cette immersion, de cette écriture sur le paysage, hein, dans la veine des Henri David Thoreau, voilà, dans cette idée vraiment de s'imprégner pour descendre en soi, effectivement, pour écrire de façon le plus poétique possible. Donc il y a cette idée, il y a aussi cette idée d'aller à la rencontre d'un territoire, de grands paysages que je ne connaissais pas, de se relier aussi à ces grandes marches, puisqu'il y a ces marcheurs, hein, qui militent aussi. Il y a cette idée de un petit peu de désobéissance civile, hein, à la Thoreau, c'est-à-dire d'aller voir aussi ces jeunes qui marchent pour la démocratie, pour le climat. C'est de faire ce récit un petit peu voilà.
Mais vous les avez rencontrés en chemin, ces jeunes dont vous parlez?
Alors il y en a certains.
Ils étaient plutôt autour de vous dans une actualité que vous suiviez,
voilà,
au même
dans
moment.
L'actualité, j'ai pu en rencontrer certains à certains moments, à travers des escales dans les villages, donc voilà, je suis imprégnée de tous ces discours là aussi lorsque j'écris ce récit.
Ouais, donc c'est sur la nature, la vie simple menée à l'écart de la société, parce que vous êtes très inspiré de ça. Vous parlez de Henri David Thoreau avec ce livre Walden ou la vie dans les bois, qui était vraiment un livre qui a marqué beaucoup de générations. Et c'est cette idée là que vous voulez reprendre aussi avec Stevenson aussi, l'idée des Cévennes, de partir en chemin avec un âne là qui est imaginaire mais qui pourrait être un vrai âne comme lui l'avait.
Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a ce compagnonnage aussi avec l'animal. Donc je pars dans les pas de Stevenson, j'emprunte de nouveau ce grand chemin, hein, de plus de 240 km. Je retournerai un deuxième printemps aussi, hein, sur le chemin de Saint-Guilhem. Oui. Donc ce sont ces deux randonnées, ces deux marches que je vais mêler dans ce livre, où je convoque Stevenson, parce qu'en fait il est quand même assez étonnant, ce personnage. Il va partir, il a un peu moins de 30 ans, il va ouvrir la voie aussi à l'écriture du voyage, en fait, hein, et à ce voyage intérieur, de ce dédoublement. Donc c'est un petit peu tout ça que je cherche aussi dans l'écriture, en allant dans ses pas et en découvrant ce personnage de Stevenson que je ne connaissais pas beaucoup, ouais, en fin de compte.
Il y a la figure de l'âne qui est très importante évidemment. Alors il y a Pompon, hein, c'est un hommage à Pompon, parce que c'était votre âne, Pompon.
C'était
l'âne, Olivier, c'est
tout
ça?
Tout à fait, de notre enfance, cet âne qui nous a accompagné, l'âne de mes grands-parents, donc qui vivait donc en Bretagne. C'est très intéressant de se plonger aussi dans ce rapport à l'animalité, à la sauvagerie, alors que je vais croiser dans les Cévennes, parce que je vais observer ces milans royaux, cette espèce en voie de disparition, ces oiseaux vulnérables. Mais c'est aussi ce rapport, c'est vrai, de ce rapport d'amitié finalement qui peut naître aussi avec l'animal, et en l'occurrence avec Pompon. Et dans le récit de Stevenson, il s'agit de Modestine. Ouais. Et c'est vrai que bon, notre rapport à l'animal a énormément évolué aussi au fil du temps.
On va l'entendre d'ailleurs dans cet extrait que je vous propose d'une dramatique télévisée en 1975 de Jean Kerschbron. Voyage autour de Stevenson et de son âne.
Ah, Modestine!
Je vais vous le donner, moi, l'homme qui fait marcher ces bestioles-là. Pendant que vous tapez dessus, vous criez prrr, prrr.
Modestine, je crois deviner que tu ne veux pas prendre le raccourci. C'est ça? Pourquoi? Comment comprendre tes raisons si elles sont stupides? Ah, Modestine, vous êtes une idiote. Je vais vous traiter comme une idiote.
Voilà, il a été immonde avec son ânesse, hein.
C'est ça qui est un petit peu révulsant en fin de compte de la part de Stevenson. Il va la maltraiter. Enfin moi c'est vrai que c'est quelque chose dans son récit qui m'étonne totalement. J'ai envie de me réconcilier en fin de compte aussi dans le récit à travers ce que je peux dire sur l'animal et notre part d'animalité aussi que nous avons tous avoir un autre regard en fin de compte.
Alors c'est pas que autobiographique, il y a aussi finalement une sorte de fiction, de dédoublement dans ce livre parce que vous croisez un marcheur, si j'ai bien compris votre récit, que vous n'avez pas réellement croisé dans la vraie vie.
Disons que c'est dans ce récit Marche en plein ciel. Alors il s'agit d'un récit sur le vivant, puisque nous sommes nous appartenons au vivant et c'est vraiment de renouer avec ça. Mais c'est aussi d'apporter une part de fiction. Je vais dans les pas de Stevenson, qui lui-même sera le maître du roman. Il ira vers la fiction avec son personnage du docteur Jekyll et Mr Hyde, avec le maître de Ballandré. Ouais. Donc c'est tout ça qui aussi infuse dans ce récit. Donc en effet, ce fameux Marve Joll que je vais rencontrer finalement en imagination.
Avec mais son aussi, petit âne gris.
Voilà, il va Luce, qui est ce symbole de la lumière aussi.
Ouais. Mais pourquoi on invente un double dans un récit pareil? Est-ce qu'au fond, il y a besoin, puisque vous écrivez beaucoup, vous le racontez en marchant, il y a besoin aussi d'être accompagné dans cette solitude quand même, qui est réelle? Est-ce que vous aviez besoin de ça, de créer ce dialogue au fond?
En tout cas, c'est une tentative, et j'ai trouvé mon éditeur aussi, du coup, ça fonctionnait bien. C'est une façon de dialoguer aussi avec soi-même. C'est une façon de dialoguer avec ses lecteurs et ses lectrices, parce que maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le texte, il appartient aux lecteurs. C'est à eux de faire le chemin aussi, ce chemin vers la lecture et ce chemin peut-être de partir sur le terrain.
Et comment ça se passait justement quand vous marchiez? Est-ce que vous faisiez X kilomètres par jour et à la fin de la journée, vous preniez des notes? Est-ce que vous arrêtez au fur et à mesure du chemin pour prendre des notes? Comment vous êtes organisé tout simplement?
Oui, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu cette habitude en tant que reporter radio d'avoir ce magnétophone et le Nagra avec soi.
Pour Claude Villers, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure.
Oui, et puis les émissions que j'ai pu produire par la suite, que ce soit sur le Transsibérien ou à travers le monde. Donc il y avait vraiment cette prise de notes, cette prise sonore. Et là, dans l'écriture, ce que j'ai tenté de faire cette fois-ci, c'est de traverser la France avec un carnet d'écolier, et c'est ce qui s'est passé. Je marchais entre 30 et parfois 40 kilomètres, donc c'était un rapport aussi très physique au paysage. C'était quelque chose comme ça de très épuisant, où je me suis essorée réellement, ce qui a pu apporter justement une écriture très intéressante, puisque c'était une écriture sur le motif et dans le mouvement. Là, j'ai découvert que le mouvement de la marche donnait ces textes. Donc, effectivement, j'ai écrit en marchant.
Au fur et à mesure
de la marche.
Pas le soir en arrivant.
Non, du tout. J'étais, je pense, suffisamment rincée à la suite de ça. Donc après, on s'installe dans les lieux d'hébergement. Et après, au retour de ces deux marches, de ces deux grandes randonnées, j'avais suffisamment de matière écrite pour les augmenter d'autres choses, donc de documentation, parce que de toute façon, on n'écrit jamais à partir de rien. Donc la documentation, c'était en effet toute cette littérature du nature writing que j'aime et que je compulse. Et on lit aussi beaucoup lorsqu'on écrit. Le journal de Stevenson, des informations que j'ai pu glaner aussi, pour augmenter aussi ce récit. Et comme tout à l'heure vous le disiez aussi, de cette documentation autour de ces grandes marches, que ce soit, moi je suis quand même très sensible à ces grandes revendications de ces jeunes à travers la planète, que je considère qu'il faudrait mieux écouter en fin de compte, ceux qui marchent à Hong Kong ou ceux qui marchent pour le climat, c'est quand même assez fabuleux. Donc comment renouveler le récit de la marche aujourd'hui? J'ai voulu insuffler tout ça. De cette actualité.
Laurent Gélin, il faut être un grand marcheur quand on va sur les traces des lynx. On va en parler dans un instant avec vous, mais c'est quand même aussi, vous crapahutez pas mal.
Alors moi, c'est aux grandes dames de ma femme qui fait ce genre de randonnée. Là, moi, j'ai tendance à m'arrêter à peu près tous les 25 mètres pour regarder les traces, m'agenouiller pour sentir. Mais effectivement, quand vous êtes sur la trace d'un lynx, ça peut vous prendre 7 ou 8 heures dans la journée.
Gwenaëlle Olivier sera ma dernière question. Vous qui avez parcouru le monde entier à un rythme effréné, parce que pendant la période où vous avez travaillé pour Claude Villers, vous partiez tout le temps faire des reportages. Donc vous preniez l'avion sans vous poser du tout de questions. Est-ce que vous pourriez refaire le même métier aujourd'hui avec les préoccupations environnementales là, qui sont les nôtres?
C'est une très bonne question, Mathieu. C'est vrai que c'est une question qui est aussi au cœur de ce récit, puisque je pars marcher, je pars aussi avec ce souci de l'environnement, de la crise climatique. Donc ça nourrit ces textes. Et aujourd'hui, évidemment, non. Là, je réfléchis à un grand voyage maritime, par exemple, et autant j'ai aimé voyager sur ces porte-containers, passer le canal, le canal du Panama, il y a eu ce grand reportage sur Interception, ou bien partir sur les îles Marquises, par exemple, sur navires de fret aussi, hein, ces cargos mixtes, qu'aujourd'hui, j'envisage, c'est vrai, les choses autrement, plus en douceur, plus à l'écoute du monde, des sons, et plus aussi à mon écoute, en fait, à mon propre rythme, ce qui donne ces textes. Et encore une fois, je remercie mon éditeur, hein, du mot et du reste, de me donner cette chance aussi de transmettre ces écrits.
Ça s'appelle Marche en plein ciel et ça paraît, vous en êtes l'autrice, Gwenaël Abolivier. Allez, dans un instant, le Lynx, justement. Nous quittons les Cévennes pour le massif du Jura avec Laurent Gélin qui propose un film qui sortira sur les écrans mercredi.
Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends, le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, des graphes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Je m'en balance, sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance. Moi, je me balance, au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je m'en balance, je m'en balance.
Et Barbara, qui nous fait du bien cet après-midi, moi je me balance.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
J'étais tout gamin quand j'ai appris le retour du lynx dans le Jura. Cette nouvelle m'a fait rêver. Je m'imaginais le chercher, me cacher et l'observer. À peine installé dans ces montagnes, j'ai parcouru les crêtes et les vallons à la recherche du félin. Cela fait maintenant des années que je le piste et je commence tout juste à comprendre la vie d'un des animaux les plus discrets d'Europe.
Et c'est votre voix et votre film qui sort mercredi dans les salles, Laurent Gélin, Lynx, tout simplement, qui était en sélection officielle au festival de Locarno l'année dernière. Et donc le lynx boréal dans le massif du Jura. Combien il y a d'animaux là-bas en ce moment? Est-ce qu'on le sait exactement ou pas?
Oui, parce qu'il y a des recensements qui sont faits par les biologistes et suisses et français. Et on a environ 150 individus adultes, et puis avec les jeunes qui suivent les femelles.
Alors vous parlez de régulation, justement. Je vais vraiment directement dans le sujet, mais c'est étonnant parce que vous parlez d'une régulation grâce à cet animal, par exemple dans le massif du Jura. C'est pour ça aussi qu'il a été réintroduit. 150 individus, c'est suffisant pour réguler une population d'animaux et cette faune donc qui fréquente le Jura?
Oui, alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que d'abord, c'est
Ça a été réintroduit, les lynx ont été réintroduits dans les années 70 en Suisse, et ça n'a pas été par des bobos citadins qui voulaient des animaux, des beaux animaux dans la forêt. C'est vraiment des ingénieurs forestiers, des gardes forestiers qui en avaient marre en fait de voir les forêts qui étaient broutées, abrouties, on appelle ça abroutir, par les chamois et les chevreuils. Et par conséquent, en fait, ils se regroupaient en grands groupes, et on a fait une expérience en 71, en 71 devrais-je dire en Suisse, pour relâcher quelques lynx dans l'Oberland bernois. Et puis effectivement, on a vu que la présence du prédateur éclatait les hardes, et ça permettait d'avoir une meilleure répartition des herbivores sur la forêt. Et on voit maintenant qu'effectivement, il y a un vrai effet positif sur les forêts.
Ouais. Et ça a été le cas de sa réintroduction également dans le Jura, c'est pour les mêmes raisons?
Exactement, c'est en fait un sacré bonhomme qui s'appelait Archibald Cartier, sur le canton de Neuchâtel, qui a voulu faire la même expérience, et on se retrouve avec des très très belles forêts, notamment dans le Val de Travers, où on a des forêts très très bien gérées.
Et est-ce qu'il y a parfois une sorte de sentiment de concurrence, puisqu'on retrouve notamment récemment, là, ces derniers mois et dernières années, des lynx tués, alors soit renversés par la route, par une voiture, mais soit avec une balle de chasseurs hein, qui peut-être sont pas contents, qui viennent manger les chevreuils.
Oui, alors effectivement, on a deux gros problèmes actuellement, un troisième qui vient maintenant avec la génétique, mais on a vraiment un gros problème d'abord d'espace. En fait, on se retrouve avec effectivement des territoires qui sont maintenant plus ou moins occupés partout sur toute la chaîne du Jura, et les jeunes qui vont essayer de chercher des nouveaux territoires, qui s'émancipent, vont avoir énormément de mal à trouver des nouveaux territoires puisqu'ils sont déjà occupés, donc ils vont être obligés d'aller traverser des territoires dangereux, des routes évidemment, et là on va se rendre compte que depuis quelques années, on a de plus en plus d'animaux qui se font écraser. Et puis, de temps en temps, et notamment dans les Vosges, puisque la réintroduction des Vosges dans les années 80 a totalement échoué au début des années 2000, par le braconnage en fait, parce que justement il y a une population de chasseurs là-bas qui était absolument contre la présence du prédateur. Moi j'essaye de mettre un petit peu d'une bémol dans le Jura, c'est que on a une population de chasseurs dans le Jura qui, si effectivement ne voulait vraiment pas de lynx, on en aurait plus. Et ouais, on en a quand même. Donc je veux dire, il y a une tolérance dans le Jura qui n'est pas du tout la même que dans les Vosges.
À la saison des amours, voilà ce qu'on peut entendre lorsqu'on va dans le massif du Jura avec le chant du mâle.
Cela fait plusieurs jours que je suis la trace de ce mâle. Il n'arrête pas d'appeler. À cette saison, on dit que les lynx chantent.
Voilà, il chante. Il est un peu seul d'ailleurs dans cet extrait. Hein.
Ouais. Alors en l'occurrence, il est pas seul parce qu'il y a moi qui suis en train de l'enregistrer.
Certes,
ouais,
mais c'est pas
mais
vous qui cherchez.
Pas de femelle, pas de femelle en vue.
Non, non, non. Et la femelle, moi, ça a été un vrai parti de cache-cache là il y a deux ans justement parce que Boris Jolivet, qui est le preneur de son, a essayé de l'enregistrer. Il y avait trop de vent, etc. Moi, j'ai pris la relève après. Donc j'avais cette espèce de grand micro parabolique plastique là où je passais plusieurs nuits dehors dans mon sac de couchage, et ce mâle là est venu littéralement renifler, respirer dans mon micro en pleine nuit.
Vous étiez à quelle distance de lui alors?
Ah non, mais il était au bout de mon sac de couchage, ouais. Donc j'ai vraiment eu les poils qui se sont hérissés parce que, et amplifié par le micro, c'est pas un lynx que vous entendez, c'est un tigre. Donc là, j'ai eu une trouille pendant un quart de seconde.
Vous bougez pas dans ce cas-là?
Ah non, mais j'avais aucun risque. Il y a vraiment un animal qui est pas du tout dangereux. Mais moi, j'ai eu cette espèce de réflexe rapide du bruit guttural, de la respiration d'un fauve. Mais tout doucement, j'ai bougé la parabole parce que moi, je voyais rien évidemment parce que j'étais caché par la parabole. Et là, je découvre un lynx dessiné par la lune au bout de mon sac de couchage qui me regarde droit dans les yeux. C'était un moment extraordinaire.
Et vous dites, merde, j'ai pas mon appareil photo.
Ah bah là, j'avais pas assez de lumière de toute façon, mais non, mais le moment était extraordinaire.
Ouais. Et alors, il fallait filmer la rencontre avec la femelle, et ça a été un vrai casse-tête, non?
Un casse-tête, c'est pour ça que j'aime pas dire que c'est un documentaire, parce que c'est un vrai film, ça a été monté par Laurence Buchmann et avec un vrai talent. Elle raconte une vraie histoire, c'est une vraie histoire qui évidemment a été montée pour le cinéma. Donc, ouais, les premières images que je fais du mâle qui appelle, c'est en 2015.
C'est ça.
Et la dernière image, la rencontre en réalité, c'est 2021.
Donc, heureusement, il y a des ellipses au cinéma.
Il y a quelques ellipses, et puis surtout, j'étais complètement frustré parce que moi, je voyais la femelle, mais c'est quand même un animal forestier et nocturne. Par conséquent, j'avais pas la possibilité de les filmer. Et l'année, il y a deux ans, en plein montage, j'étais à Paris, Et j'appelle Laurence et je dis, ça y est, enfin, j'ai la femelle qui répond, puisqu'elle était venue effectivement à 50, 60 mètres de moi, et elle appelle avec exactement le même type de forêt, quoi.
Un message d'Emilien sur franceinter.fr. Il y a quelques années, j'ai lu votre reportage, dit-il, sur Feu, le magazine Alpes Loisirs. J'ai été marqué par une photo sur tout votre matériel photo. Est-ce que ce fut la même chose pour le matériel cinéma? Et moi, j'ajoute une question, différence photo-cinéma. Est-ce que finalement, ça change tant que ça?
Ah, ça change pour moi, en tout cas, terriblement, parce que je dirais même que c'est physique, en fait. Lorsque vous avez un bon réflexe, sans mauvais jeu de mots, un réflexe à un appareil photo, mais des bons réflexes, vous voyez un animal qui traverse un chemin, vous pouvez faire des photos assez rapidement. En vidéo, en film, il faut que vous le laissiez arriver dans le champ, vous le laissiez partir aussi, et quand vous n'avez pas vu l'animal pendant 8 mois, en fait, vous n'avez pas envie de le quitter. Par conséquent, vous devez vous faire force pour le laisser sortir, et tout doit être très très souple, en fait. Donc ça, c'est très très différent, et en règle générale, pour le matériel, pour répondre à la question, c'est du matériel assez léger, parce que forcément, quand je suis les animaux sur le terrain, je ne peux pas me permettre d'avoir des grosses, grosses caméras.
Gwenaëlle Olivier, vous n'avez pas croisé de lynx dans les Cévennes? On n'en trouve pas dans cette partie de la France.
Non, du tout. Moi, c'est vrai, j'étais plus en admiration envers les oiseaux, hein, ce fameux Milan Royal qui avait été très admiré aussi par Léonard de Vinci. Mais du coup, comment ça se passe une veille comme ça pour capturer ces images? Il y a des moments privilégiés, même dans l'année. Enfin, c'est à quelle saison que vous y allez?
Ben, en fait, c'est ce que je dis souvent. En fait, on ne connaît pas les lynx, on connaît des lynx. Et moi, ça fait 12 ans que je travaille sur l'animal. Donc, pour avoir ces images-là, il y a parfois des prévisions sur une année, voire 2 années. Je sais que à telle période de, là, on est en pleine période maintenant, là, enfin, début de la période des amours actuellement, hein, c'est février-mars, normalement. Bon, ben là, j'ai mes endroits. Là, j'étais sur le terrain hier. J'ai suivi mon mâle qui frottait, qui commençait à marquer son territoire. Et puis, au printemps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans d'autres secteurs où il y a des naissances de cabris et là où il va le chasser, quoi.
Alors, vous avez travaillé avec des scientifiques, justement. On va écouter un autre extrait du film dans lequel il y a une capture de lynx.
Des amis scientifiques cherchent également à comprendre la vie du lynx. Ce soir, ils ont trouvé une proie sur le territoire de la femelle. Autour du chevreuil mort, ils tendent des câbles qu'ils cachent ensuite sous la neige et les feuilles. Quand la mère retourne sur sa proie, elle ne voit pas le piège qu'ils lui ont tendu. Endormie, son état de santé vérifié, les biologistes m'apprennent qu'elle sera relâchée à plusieurs centaines de kilomètres de là. Elle va participer à la renaissance d'une nouvelle population comme autrefois ses ancêtres dans le Jura. Je sais que les scientifiques tentent de remédier à une situation difficile, mais leur relation au lynx est bien différente de la mienne. Et je suis déconcerté quand je vois partir la femelle que j'ai suivie pendant 1 an.
Voilà, Laurent Gélin. Mais c'est pour le bien de l'espèce aussi. Vous vous rappelez qu'il y a un problème de consanguinité aussi autour
Absolument.
De ces animaux. Hein.
C'est le problème. On parlait du braconnage, on parlait aussi du morcellement des territoires. Et puis maintenant, je travaille depuis 10 ans avec les scientifiques du CORA en Suisse. Et effectivement, on se rend compte que maintenant, il n'y a pas assez de brassage génétique.
C'est pour ça qu'on les relâche plus loin. Hein.
Exact. Oui, enfin, il y a un mélange. Là, c'était pour un programme allemand relâché dans le Palatinat.
Elle vous vient d'où, cette passion lynx, Laurent Gélin?
Écoutez, en fait, en tant qu'amoureux de la nature depuis gamin, je suis arrivé dans le Jura. La première chose, je me suis dit, au moins, je vais le voir une fois, c'est une espèce de Graal. Et puis, quand vous êtes professionnel de l'image, photographe et vidéaste, vous dites, mais c'est pas possible qu'il n'y ait jamais eu de documentaire fait sans utiliser des animaux dressé ou captif. Et là, moi, j'arrivais avec un champ totalement ouvert qui m'a complètement passionné pendant 12 ans. Quoi.
Et on verra des chatons, on dit les chatons aussi pour
ouais,
le,
les chatons,
pour le, les petits du lynx,
ouais,
qui ont fait craquer Mathieu.
Ah, ils sont merveilleux, ils sont merveilleux. Il y a des fins tragiques, mais bon, on laissera aux téléspectateurs.
Voilà,
Non, on laissera aux spectateurs le soin de le découvrir. Il y a de très très belles images de cet animal.
Ben,
c'est un
beaucoup.
Félin absolument splendide. Il faut aller au cinéma à partir de mercredi, ça sort dans les salles. Les avant-premières ont un succès énorme en ce moment. Et il y a le livre également qui sort avec des images, c'est aux éditions La Salamandre, ça s'appelle Lynx tout simplement, et vous en signez donc le film Laurent Gélin. Merci beaucoup à vous, merci Gwenaëlle Abou-Olivier. Marche en plein ciel, c'est aux éditions Le Mot et le Reste.